Attention à l'insecte. Souvenez-vous, nous avions déjà le droit au travail et maintenant nous avons le droit aux vacances. On a le droit à ces vacances et c'est le début des grandes migrations estivales. Les voitures sont chargées, ça sent les œufs durs au bord de la route et puis il y a les claques qui tombent, tout ça parce qu'on n'a pas pris ses précautions avant de partir. Tout le monde trépigne, tout le monde s'énerve et le rêve commence là. La route mythique, c'est la National 7. Un mot et puis un chiffre, tout cela est bien anonyme mais c'est pourtant le signe d'un rêve d'été. Et même un rêve de gosse, c'est le rêve de Christian Louis. Il est photographe. De ses yeux, il a mangé l'asphalte vers la mer. Ça donne un très beau livre aux éditions Marval avec des textes de Pierre Drachline. Mais chut, il serait grand temps de prendre la route.
Ces figures, c'est toujours thématique. C'est-à-dire que la National 7, on l'a travaillé près de 4 ans. Donc c'est important que ce travail se fasse sur un temps assez long, ne serait-ce par respect au parcours photographique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de survoler. Mon ami Douaneau dit toujours les reporters sont entre deux jets et deux whisky. C'est pas mon cas. Je suis peut-être entre deux routes et deux murs et parfois deux pinards. Mais en tout cas, pas entre deux jets qui ne passionnent guère. Et je crois que ce qui est important dans ce parcours, c'était toute la mythologie qui accompagnait mes rêves de gosse. C'est la route où Camus s'est tué, c'est la route qui allait, cette Côte d'Azur, mes grands-parents étaient concierges dans le Faubourg Saint-Denis. Et toute leur vie, l'aboutissement de leur vie d'ouvrier, c'était de partir voir Nice, par la ville de Nice, c'était leur Acapulco portatif, quoi, les palmiers en plastique de Nice, fallait y aller. Et donc ils ont attendu la fin de leur vie, je crois, ils ont économisé tout ce sens. À blanc pour un jour louer une piole de merde derrière la gare, loin de la mer, naturellement, on ne voyait pas la mer, et il m'avait fait venir là, bien entendu, même quand t'es gamin, quand t'as 10 ans, t'es très déçu. Donc j'ai eu envie de refaire ce parcours mythologique, et donc on l'a recommencé en 1984, les photos ont été commencées un 1er avril 1984. Et donc je parlais du petit cheval de Paul Fort, c'est la première rencontre que nous avons fait en arrivant dans Fontainebleau. C'est sous des 2 tonnes de poussière, il y avait 4 chevaux. Alors, j'ai balayé d'une main négligente, tu vois, et je me suis aperçu, je dis, mais elle roule? Il m'a dit non. Elle n'a jamais roulé, ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas roulé, cette voiture. Donc, on a enlevé la poussière, on a sorti le moteur, on l'a remis en état, et hop, on est parti.
Ah.
faut être honnête, c'est que c'est fait en plusieurs fois, en plusieurs années, ce voyage. Donc je parlais de plus de 3-4 ans environ. Et il y a les petits bouts, comme ça, par exemple, il y a un petit bout complètement subjectif qui est se retrouver à 6h ou 5h du matin dans l'esprit du départ. Imagine ce que c'est que le départ. Le départ, c'est la fièvre, tu vois. On charge la voiture, on met les bagages sur le toit, t'as les mômes qui pialent, les oeufs. Est-ce que t'as, chérie, est-ce que tu as pensé à fermer le gaz ? Hein, tu connais cette petite phrase. Et donc, je crois l'important, c'était ça, se retrouver dans cette fièvre. Et il y a eu des petits bouts comme ça où j'ai refait, par exemple, Orly-Paris à pied. Comme ça, pour rire. Plusieurs fois. Et je sais pas, moi, quand tu es porte d'Italie, par exemple, à 6h du matin, avec un petit peu d'imagination, je t'assure, tu as l'odeur. Bon, c'est le périph', hein, mais tu as l'odeur de la Méditerranée. Et tu montes la côte de Villejuif. Sur la pointe des pieds, t'aperçois les coteaux lyonnais. Mais ça, personne ne veut me croire, mais je suis sûr que c'est vrai. Je crois qu'il y a une volonté délibérée, comme on le disait tout à l'heure, de se replonger à la peinture d'époque. Mais enlève le facteur chance de ça, ça n'a pas lieu d'exister, ce reportage. Enfin, j'aime pas le mot reportage, parce que le reportage, il s'applique toujours en photographie à l'actualité. Moi, je fais jamais l'actualité, l'actualité m'emmerde, elle emballe ça deux jours après, même quand c'est la chose la plus atroce, si tu veux. Et on va pas en parler.
Et voyez, nous, on était en vacances près de Marseille, et ben, on a fait le trajet de retour Marseille-Paris dans notre voiture à nous. Et j'aime autant vous dire que pour la vitesse, ça y allait un peu, hein. Les gens sur les routes, ils nous regardaient pas, et... Non, peut-être pas quand même, hein. Oh, peut-être pas, mais bien, hein. Enfin, le temps qu'on passait, quoi. Il y en a un, il nous a regardé passer comme ça. Il y avait un don d'âme, là. Mais... Oh ben, la vitesse qu'on allait, c'est pas dur. On a fait Marseille-Paris le 1er septembre, on arrivait.
Voici enfin les souverains de la route. La Nationale 7, sous l'œil de Christian Louis, devient un théâtre d'asphalte et de verdure, avec le soleil au bout de la route. Porte d'Italie, le chemin prend son envol. Ça sent le thym et puis le sable déjà. Pourquoi pas ? Moi, je veux bien y croire. En tout cas, je veux bien en rêver. Christian Louis subtilise le sublime sur ses images pudiques, à l'instar de Charles Trenet. Voilà la France tout entière qui chante la gloire de la Nationale 7.
Cette mythologie, cette poursuite, cette quête du Graal, comme je l'appelle, il fallait se mettre dans la peinture d'époque et elle vient à moi. Elle vient à moi, j'allais dire, pas naturellement, mais sans forcer les choses, dans le système d'attente, du temps passé, du temps perdu. Encore une fois, on va reparler du luxe, du temps, c'est très important, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, je sais pas, pour certaines images, on feuilletera ensemble, on parlera des images, ça. Tu sais, la radio, on peut raconter quelques anecdotes sur certaines images, entre autres le chauffeur de Malraux que je rencontre un peu plus tard, le chauffeur de Malraux pendant la guerre d'Espagne. C'est pas des choses que tu fais en 5 minutes. Je veux dire, t'imagines bien que tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 3 jours à l'hôtel à côté avant que la photo n'arrive à toi. Alors quand tu racontes ça au Pékin, un moyen qui fait de la photographie, il prend bonbonne sur l'acheter en vacances, ça lui prend 5 minutes. Peut-être pour un autre type de photographie qui est la mienne, puisque je fais que ça, bien sûr, depuis longtemps. Je veux dire, bien sûr. Là aussi, je veux dire, l'implication du fait que le professionnel, que ça veut dire que je ne fais que ça, et que c'est une implication totale. Je veux dire, je passe mon temps dans la photographie jusqu'au cou, je m'immerge dedans avec un tuba, et c'est épouvantable, quoi. Les gens ne se rendent pas compte de l'investissement que ça représente. Et puis il y a tous les cafés, les rencontres dans les cafés. Je veux dire, c'est aussi important quand je vois que depuis 15 ans que je connais Robert Doisneau, que je connais Willy Ronis, que sont des grands copains. Je crois que c'est plus important de parler de la pluie du beau temps dans les cafés que de parler de photographie. Tout ça, parler de la pluie du beau temps dans les cafés, ça prend énormément de temps. Aux jeunes la photographie que pour la photographie. Or la photographie, entre autres dans les écoles de photographie, on apprend à faire des photographies. Je trouve ça une connerie infâme. Ce qui est important en photographie, hein, excuse-moi, je vais terminer. Ce qui est important en photographie, finalement, c'est de bouquiner, quoi. C'est d'aller au café, de rencontrer des gonzes dans la rue. Ben, il me semble, je veux dire, le terrain d'aventure, il est là, quoi. Il n'est pas dans les écoles théoriques, quoi. Pour moi, hein, j'entends comme ça, parce que j'ai pas été à l'école, tu me diras, je revendique ma paroisse, là. Hein. Mais je pense que j'ai plus rencontré dans les bouquins, entre Prévert et Sandra, entre Queneau et puis les copains actuels, parce que je suis très fier d'être copain avec des gens qui ont du talent d'écriture. Avec Bourjal, avec Pierre de Racheline, des gens comme ça avec qui j'ai fait des livres. Pierre de Racheline a parfaitement compris ce que je voulais. Enfin, j'ai pas lui rien imposé non plus. Mais on a parlé un peu de quelques anecdotes. Ça lui a tracé l'itinéraire de mon imaginaire. Et à travers mon imaginaire, il a refait des mots. Et ces mots, on les a accolés aux images de National 7. Je pense qu'il y a une belle réponse, que le spectateur d'image, comme je l'appelle, le spectateur d'image, c'est-à-dire qu'il faut essayer aux gens de rentrer dans l'image, de rentrer dans mon intérieur. C'est difficile, ça. De dire, voyez, regardez, moi, à ce moment-là, je vois le petit cheval de Paul Fort. Alors déjà, ils ne savent pas très bien qui est Paul Fort. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que, pour qu'ils rentrent dedans, ben, il y a un petit support de texte. En général, quand on m'a reproché, on m'a dit, mais pourquoi on fait des livres de photographie avec des textes? Alors que bon, il pourrait s'en passer, quoi. Et ça, c'est difficile à expliquer. Je pense qu'il y a une parabole. Moi, j'aime bien la parabole, j'aime bien le miroir. Hein, j'aime pas quand c'est démonstratif, quand c'est ceci et cela, non. Il y a un miroir des choses. Et en général, on enlève les textes quand le photographe est momifié, quoi. Quand il est plus près de la mort ou déjà embaumé. Alors là, bon, on enlève, là, il parle de lui-même, quoi. Pour l'instant, je suis encore trop jeune pour mourir, les mecs, attendez. Difficile parce que par exemple le chauffeur de Malraux dont je citais M. Herrero, qui est un personnage fabuleux, qui a fait la guerre d'Espagne, qui a été arrêté par les gendarmes pétainistes, nos chers gendarmes, nos chers flics, et bon, il s'est tapé 9 ans de camp en Baléares, camp de vacances déjà au Baléares sous Franco, hein, après la guerre, enfin à partir de la guerre, et ce type, bon, bah, si on raconte pas, ne serait-ce qu'avec la faconde de Drachline dans ce National 7, si on raconte pas qu'il est chauffeur de Malraux, on peut pas le deviner, quoi, je veux dire.
Cette ombre chinoise, sur fond de bric-à-brac, c'est un peu du remords de l'Europe. Franco, décédé dans son lit en 1976, et Monsieur Herrero prolongeant son exil dans l'indifférence générale à Sorgue. Il devait avoir fière allure en août 1936, Monsieur Herrero, lorsque les ténèbres envahirent la terre d'Espagne. Républicain, parce qu'il se voulait homme, il n'eut pas à choisir son camp et son destin. Chauffeur d'André Malraux, il vit l'écrivain chercher les sources de l'espoir dans les ruines encore fumantes des villes espagnoles. Monsieur Herrero fut de ceux qui formèrent cette lie de la terre que les gendarmes et puis les gardes mobiles français parquèrent dans les camps de crainte que l'idée de liberté fut contagieuse. Vichy le livra aux franquistes et 8 années de camp furent soustraites de son existence. Est-ce par humour noir qu'il est revenu en France ?
voit qu'il est usé par le temps. C'est une photographie, voilà, décrire, c'est un mec qui est casseur à Sorgues. Sorgues, c'est juste avant Avignon. Et on voit qu'il est usé par le temps parce qu'il y a une bosse, la bosse du poids de l'histoire sur son dos, quoi. Hein, il est courbé en deux, il est plié en deux, ce pauvre gars. Et bon, ben, il s'en est parmi de la guerre d'Espagne, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Bon. Eh bien, je pense que dans l'image, on essaie de dire des choses, mais que tout n'est pas dit. Je veux dire, le fait qu'il était chauffeur de Malraux, quoique Malraux, je l'emmerde. C'est assez sombre.
C'est ça, et puis ses fesses sur le bord de la route. Voilà la belle idée. Casser la dalle, casser le rythme, laisser voler ses idées et puis ses rêves accrochés au pare-choc de la belle américaine qui vient de passer. La tête entre les mains pour voir le ciel, le vent et le soleil. Poser les sacs, refroidir les moteurs et puis repartir tranquille. Tranquille jusqu'au bout du rêve, jusqu'au bout du soleil. La National 7, elle a toute sa vie devant elle.
On va être un peu manichéen, là, je suis navré auprès de l'auditeur, là, mais bon, est-ce qu'on peut comparer la National 7 et l'autoroute? Les restos-routes de merde, on bouffe de l'hamburger et puis trois gros et Bocuse. Est-ce que ça se compare, quoi, finalement? Même le casse-dalle que le prolétaire moyen bouffait en forêt, quoi, à quelques pas de la National 7, est-ce que ça se compare avec l'autoroute? Assez étonnant, c'est qu'il y a eu un livre de Julio Cortázar qui est sorti juste avant sa mort, son dernier livre avec une photographe qui s'appelle Carole Dunlop. Et c'est un livre complètement pané. Faut dire ce qui est sorti chez Gallimard, c'est pas les Cosmonautes, je ne sais plus le titre exact, Cosmonautes de l'autoroute. Ils ont fait la même chose que moi, mais par l'autoroute de Paris à Marseille. Et c'est significatif, ils se sont appelés l'oursine et l'ourson. Parce qu'ils étaient sur les parkings d'autoroute, ils s'arrêtaient, et ils voulaient plus voir personne. T'imagines la gueule des cons qui prennent l'autoroute. Bon, je l'ai pris aussi, tout le monde l'a pris l'autoroute, mais. Sur une nationale, tu t'arrêtes, t'as un petit bois, t'as un village, t'as un bistroquet, les gens te parlent. Est-ce qu'on te parle? Est-ce que la caissière du péage d'autoroute, elle a le temps de te parler? Alors non, restons humains, quoi. On n'est pas des robots, quoi. Malheureusement, on a l'impression qu'Orwell vient de gagner, quoi. Tu vois, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On est sous le signe de Big Brothers. Alors ma meilleure réponse, ben, c'est... Je fais un peu de peine à Simone Signoret qui avait écrit un livre qui s'appelle Nostalgie n'est plus ce qu'elle était, ben pour moi elle est encore ce qu'elle était, c'est-à-dire que la nostalgie est ma source d'inspiration, c'est-à-dire pour moi la façon de voir les choses avec cette poésie, avec ces fonctionnements littéraires, ça paraît un peu prétentieux si tu veux, mais Prévert par exemple m'accompagne souvent dans ce que je fais en photographie, je me récite un petit poème, c'est la petite musique du jour quand tu pars le matin sur un terrain. Par exemple, l'année dernière, j'étais au Blanc-Ménil. C'est une banlieue toute proche de Bobigny où nous sommes. Et j'ai passé très très bon moment à Blanc-Ménil parce que, alors que c'est une banlieue difficile, je veux dire, hein, il y a un périmètre. Le jeu de photographe consiste, c'est une commande municipale. Donc le jeu du photographe, ça consiste un peu comme la National 7. Je veux dire, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a un territoire dans lequel je m'implique, que j'implique mon regard. La National 7, je m'impliquais, je me suis dit, bon allez, on va pas tricher, 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche, on y reste. Bon, Blanc-Ménil, banlieue, hein, où nous sommes presque, un périmètre, les limites de la ville, j'en sors pas. Si je vois une photo bien à Pantin, je n'y vais pas, je reste au Blanc-Ménil. Et au mieux, ça me suffit, là, il y a des gens, vous voyez, à la fenêtre, il y a Guilus qui me fait signe, tout ça, c'est bien, oui, bon. Les chiens qui aboient, qui manquent des facteurs, pauvres facteurs. Le seul uniforme que je supporte. Ben oui, ça n'a pas été facile, et je crois qu'on s'en est bien sorti parce que j'ai pris le temps de discuter, de rencontrer. Je te parlais tout à l'heure du café, puis c'est une buvette de la Molette. Écoute, là, comme c'est beau, comme ça chante. Et ça, le matin, quand tu pars, tu as Prévert au cul, quoi. C'est du Walkman incisif, quoi. Voilà.
On arrive à un point de la vie où l'on commence à voir ses amis, des parents, des êtres chers qui se perdent en mer. une minute de silence.
National 7 déroule son rêve jusqu'à l'azur. Christian Louis a les yeux gourmands. Il vole les images et chipe doucement les rêves du voisin, celui qui a son bonheur sur le zinc au bistrot du coin. Il attend la nuit, il attend la mort. Christian Louis a vu tout ça, il a aimé tout ça. Son livre, c'est ce bonheur-là à l'état pur. Mais au fait, la National 7, où est-ce qu'elle s'arrête ? La National 7, vous savez, moi je la soupçonne de folie. Memphis, après tout, ça n'est pas si loin, c'est à deux pas, et la folie, ça vole si bien.
National 7, c'est-à-dire que on l'a refait des bouts, j'avais des doutes à certains endroits. Il y a eu des doutes à Lyon, par exemple. Lyon est une ville très très difficile à cerner. Il y a une petite anecdote qui est révélatrice à propos de Lyon, on s'est peu arrêté. Mais j'y retournerai, c'est promis. Parce que Drachine dit beaucoup de choses très dures sur Lyon. Il a raison, il dit que les Lyonnais n'ont pas digéré la révolte des Canuts. C'est quelque part, c'est vrai, et c'est corroboré. Il y a une émission sur Affaire 3 de Bertrand Tavernier qui filmait son père. C'est une vie carnet de province, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc de Bringuier, là. Et c'était intéressant parce qu'il filme son père, et son père, qui est des Brotteaux, c'est un quartier de Lyon, ceux qui ne savent pas, il y avait une gare avant. Il regarde la Croix-Rousse qui est en face, quoi, qui est de l'autre côté de la Saône. Il dit, vous voyez, la Croix-Rousse, c'est là. Les gens de la Croix-Rousse, on ne leur parle pas. À 500 mètres. Alors imagine, toi qui arrives de 500 km, la gueule de Mironton qu'ils te font. Cette partie Paris-Lyon, dans le premier voyage, avec la 4 chevaux, il y a eu la neige, hein, Rohan, tout ça, je t'ai fait jeter les trois gros, je te signale, entre parenthèses. Quand on est arrivé à Lyon, je me suis arrêté quai de Saône, j'étais sonné, tu vois, je ne pouvais plus, j'étais crevé. Et à ce moment-là, il y a le bout du trottoir qui s'ouvre, tu sais, le rond là, qui va dans les égouts, et il y a deux types qui en sortent, comme deux martiens, avec les lampes frontales. Je regarde les mecs, je dis, merde les gars, vous êtes les premiers mecs que je vois depuis Paris. J'avais pas vu d'homme.
Suivez l'exemple de Bilderheim. On arrête les moteurs, on laisse refroidir tout ça, on pose notre derrière. On regarde la National 7 qui passe avec ses oiseaux, ses rêves, son vent et puis son superbe soleil au bout de la route. Et demain, eh bien, on reprendra la route. D'ici là, on reste tranquille. Jean-Christian Louis, qui a fait la route avec nous durant cette deuxième heure de Bonne Nouvelle des Étoiles, est l'auteur d'un superbe ouvrage aux éditions Marval intitulé National 7. Une très belle collection de photos qui retrace tout le trajet de Paris à la Côte d'Azur avec une préface signée Doineau et Willy Ronis et en plus des légendes de photos, des commentaires signés Pierre Drachline. Toujours le rêve, et oui, il suffit de fermer les yeux et puis on rêve au départ, les sandwichs qui s'entassent dans les cabas, les glacières qui sont déjà pleines à craquer. Et puis il y a le guide Michelin qui est déjà dans le vide-poche, il ne reste plus qu'à prendre la route. La route, tout est beaucoup plus simple quand on parle de la Nationale 7. Rien qu'à l'énoncé de ce mot, avec ce chiffre, il y a les yeux qui brillent et puis les souvenirs qui se mélangent dans les rêves de gosse. Par la Nationale 7, c'est tout droit, de Paris au soleil. C'est une route parsemée de nostalgie, de poésie, de rêves et d'éclats de rire. On retrouve tout ça dans le livre de Christian Louis aux éditions Marval. C'est à voir et c'est à entendre. Tout de suite, dans Bonne Nouvelle des Étoiles.
C'est pas un film qui défile dans tes yeux comme ça, c'est un système de petits théâtres, une succession de petits théâtres, c'est comme ça que je vois la photographie, c'est un peu pyrandélien, c'est-à-dire qu'il y a des petits théâtres dans lesquels va s'impliquer la lumière et vont rentrer les acteurs involontaires du théâtre. C'est-à-dire que je les attends, c'est pour ça que je parlais de l'attente. Souvent, hormis les coups de chance, je veux dire, il y a une photo qui est un peu hasardeuse, exceptionnelle dans ce livre, c'est la photo d'attraction qui meurt. On arrive sur le bouchon, c'est une traction qui a eu un accident. Bon, ça c'est le facteur chance. À 99%, on a eu la chance, mais c'est l'exception qui confirme la règle dans le livre. Alors que tout le reste, je veux dire, c'est plutôt du repérage dans lequel on s'implique et on attend. Je vois un petit théâtre sur le côté, il y a une scénette qui doit se passer là. À un moment, on est à Saint-Loup, c'est un bled qui est vers Moulins, par là entre Moulins et La Palisse. Et à Saint-Loup, je vois les chiottes. Pas pour les pisser, mais c'est parce que ces chiottes m'inspirent. Si je vois marqué machin. Et juste à côté, il y a un poilu repeint, tu sais, comme une cocotte. Tu sais, les lèvres peintes, la moustache presque frisée. Tu vois, celle que je préfère, c'est ailleurs le 14-18. Et donc, cette photo, on la verra, on est en train de la regarder ensemble dans le livre. Je me suis arrêté la journée. Et toute la journée, dans ce petit théâtre, j'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, il y a un dialogue quand même, parce qu'il y a souvent, il y a des dialogues avec les hommes qu'on photographie, avec les gens qu'on photographie. Qu'est-ce que vous faites là avec votre appareil photo ? Vous êtes un peu cinglé quand même. Pour être là depuis plusieurs heures avec un appareil photo. On s'est retrouvé, je me suis retrouvé sur le canal, quand je faisais des photos au Bervilliers, j'ai longtemps travaillé sur Bervilliers, je me suis retrouvé sur le canal Saint-Denis, canal de l'Ourcq, par moins 15 l'hiver, à 2h du matin, il faut être un peu cinglé pour être sur une passerelle, là, attendre. Attendre quoi ? L'ombre d'Arletty, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, dans cette photo à Saint-Loup, pour revenir à la Nationale 7, il y avait ce type qui était en train de becquer, je crois que c'était un breton. Et puis je regarde, je dis, monsieur, je m'excuse, est-ce que vous n'avez pas envie de pisser ? Le type me dit, non, vous ne pourriez pas pisser pour moi. T'imagines, tu vois, le dialogue, je veux dire, c'est les Mario Brothers. Hein. Et le type n'a toujours pas compris pourquoi j'ai demandé d'aller pisser. C'est parce que j'avais une envie qu'il soit en mouvement par rapport aux lignes, si tu veux, des chiottes en béton, etc. D'ailleurs, je suis repassé cet été, là, je faisais la palisse, et tout ça, ça a été repeint depuis. Ils ont dû voir la photo, je sais pas, ça a dû leur foutre le... La municipalité dit, oh là là là, mon Dieu, c'est horrible. Non, mais je trouve ça très beau, je sais pas. L'horreur, des fois, de l'horreur naît par rapport à l'horreur, la façon des visions municipales n'en déplaisent certains maires de banlieue que je connais bien. Et la réalité politique, on peut la trouver dans les zones industrielles. C'est parfois superbement beau. Je veux dire, le film de Prévert dit Lothar Aubervilliers, 1947, mais c'est ça. La chanson de Germaine Montero, c'est un film merveilleux, je veux dire. Film que j'ai vu plusieurs fois, et je l'ai vu après avoir fait mes photos sur Aubervilliers pour surtout pas m'envahir. Parce qu'après, je me serais foutu la petite chanson de Germaine Montero dans la tête, pauvres petits enfants prolétaires qui plongent la tête la première dans la grâce de la misère, je me serais foutu dans la tête pendant tout mon parcours photographique, ça aurait été l'enfer. Donc j'ai vu le film après avoir fait mes photos, pour pas que ça soit trop envahi.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson est c'est la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée comme ça? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence? Passe automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir, et ce jour-là, les amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Christian Louis a sa petite musique. Cette petite musique et puis les mots qu'il se chante dans sa tête, ce sont ceux de Jacques Prévert. Il se chante ça et puis il y a tous ses rêves de gosse qui défilent devant ses yeux. Son appareil photo vole la poésie d'une route en voie de disparition. Il n'est pas reporter, plutôt écrivain. Ses images racontent des histoires, racontent nos histoires et rien d'autre.
C'est-à-dire que, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire tricher? Ça veut dire que certains photographes, et je leur en veux pas, je ne sais pas citer de nom, mais mettent en scène, comme un metteur en scène de cinéma, il demande aux acteurs involontaires ou amateurs, disons, de passer, de faire ci. Bon, des fois, il y a un dialogue, je veux dire, je ne suis pas contre le dialogue, bien entendu. Encore une fois, j'ai envie qu'on reparle vite fait du Blanc-Ménil, parce qu'on a le catalogue également sous les yeux. Il y a, dans cette café-épicerie de la Molette, il était bien entendu que pendant, j'avais 6 mois de regard photographique, j'avais demandé ces 6 mois justement pour cette liberté d'action qu'il me fallait, qui était indispensable. Il n'était pas question d'arriver dans le café, de faire des photos, de violer les gens. Je veux dire, il faut un minimum de respect de ce qu'ils sont. Si tu ne connais pas le nom de leur clébard et de leur chat et de leur môme, ça ne passe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est important, il faut bien le dire que il y a eu 3 mois environ où j'ai pas fait de photo pratiquement. Et après j'en ai fait une et je leur ai apporté l'image, j'ai dit tiens regarde, t'es pas mal, j'ai acheté une photo un peu banale quoi, un peu comme ça la gueule du mec quoi. Hein, je lui apporte, ah dis donc tu fais de bonnes photos toi, bah tu peux y aller mon gars. Bon, donc ça s'arrange. Et puis des fois tu fais pas la photo, parce qu'il y a une pudeur à avoir. C'était superbe. Et arrive un diable qui n'a qu'un œil. C'était un type qui avait un bandeau sur la gueule, qui sortait de l'hosto. Je sens mon appareil, je dis, dans quelle photo? le diable dans le brouillard, sur un pont du canal Saint-Denis, en allant sur la basilique. Ça va être superbe. Et puis, catastrophe, le type me parle, dis donc. Il dit, mon gars, tu vas pas faire une photo, t'as vu la gueule que j'ai. Eh ben, j'ai pas osé, quoi. Il sortait de l'hosto, sa femme était malade. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'invite à bouffer. C'est un petit poème de Prévert, le bruit de l'œuf dur qu'on casse sur le comptoir. Ah, tu sais, des fois, hein, je sais pas, bon, c'est difficile de faire autrement. Donc, moi, je crois que la notion de pudeur qu'on doit avoir en photographie, qui est un système de voyeur, c'est très compliqué, cette implication des deux. Ça, il faut que les gens le comprennent. C'est très difficile quand on a un appareil sur le beat. Je suis pas un mec transparent, je suis un mec 80, je suis navré. J'aurais aimé être nain, hein, des fois. Hein. Quoi qu'on m'a regardé autant. Bon, non, je crois que c'est la façon dont on parle, c'est la façon dont on approche les gens avec un minimum de respect.
Pour aller de Paris à 7, par la 7, il y a la route, l'asphalte et puis le béton parfois. Pour Pierre Drachling, qui écrit les légendes sur les images de Christian Louis, la cité nouvelle n'est plus qu'une cité mouroire. Avec les mots, avec les images, tous deux cherchent en cœur et en vain les dernières traces de nos derniers petits jardins.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
Dans cette banlieue ridée de villes nouvelles qui fleurent bon mouroir, les maisons à l'abandon sont les seules consolations acquises au regard. Loin des métastases de l'urbanisme, quelques murs paraissent encore habités par des ombres hospitalières. Ici, jadis peut-être, se rencontrèrent et s'éprirent des anonymes qui auraient pu s'offrir les destins croisés d'Amélie Ellie et de Manda. Casque d'or et les apaches semblent engloutis sous les ans, mais ils ne sont en réalité qu'endormis, à la merci du souffle qui les éveillera.
C'est qu'une ville mouroir. Bon. J'aimerais savoir si le mec du 27e étage parle au mec du premier étage. C'est la seule question qui m'intéresse. Et est-ce qu'on vit aux Minguettes? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'on vit bien aux Minguettes ou ailleurs ou à Bobigny? Ou est-ce que c'est humain tout ça, quoi? J'en veux beaucoup à nos architectes de l'après-guerre. J'en veux beaucoup. C'est une catastrophe. Ils ont complètement fait fausse route. Bon, il fallait casser les gens, il fallait faire du social. Que ça voulait dire du social dans ces tours de merde? Parce que c'est des tours de merde, quoi. Pourquoi les mômes se vengent autant? Posons-nous la question, pourquoi c'est là que finalement je pars à sociologue, je fais de la sociologie à petite semaine, mais je suis un photographe, mais à force de me balader dans les endroits, forcément on voit les trucs, quoi. Hein, on est plus habitué, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai pas besoin de, je me mets des allumettes le matin dans les yeux des fois pour ouvrir un peu l'œil, mais enfin on a l'habitude de regarder, effectivement on regarde beaucoup, on est un observateur du temps qui passe. Bon, et dans ce temps qui passe, effectivement tu vois plus de saleté dans les grands ensembles et de délinquance et d'agressivité que dans d'autres endroits, que dans un petit village de Provence, si tu veux. Bon, donc on peut se poser la question, là je fais un classement brut, quoi, j'essaye pas d'analyser, mais je pose la question et j'attends qu'on me fournisse les réponses. Donc c'est important, ça. Alors finalement, bon, bien entendu, moi je n'ai pas la poétique de l'écrivain qui parle des cités mouroirs. Oui, je crois que ça, c'est un mot qui s'applique, un mot qui est très dur de Pierre Drachling, mais je crois que Pierre Drachling a raison. On peut s'interroger sur la façon, est-ce ainsi que les hommes vivent ?
C'est affaire de décor, changer de lit, changer d'accord. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et le baiser au loin les suive? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou mon drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. dans le quartier d'Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivre.
Le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'allait jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur.
Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent.
Des soleils révolus.
Paris a quand même encore une poésie extraordinaire. Je veux dire, là aussi, bon, faut voir ce que les promoteurs ont fait, quoi. J'entendais une enquête ce matin, il n'y a plus de cinéma à Paris, enfin, c'est l'enfer. Bon, on va casser Molitor, ils n'arrêtent plus de casser, quoi. Qu'est-ce qui reste encore à casser à Paris, quoi? Je me souviens à la démolition de Baby Mimontan et j'aurais cité un livre que j'aimerais tous les éditeurs d'acheter, un texte de Pierre McCorland, des photos de l'ironie, c'est Baby Mimontan, photo faite entre 47 et 53. Achetez ce bouquin, vous comprendrez ce qu'on veut dire, ce que c'est que la poétique du village, le village dans Paris, la mercière du coin chez qui on va discuter, les mots, on va acheter des petits bouts de fil, il se passe quelque chose, quoi. Et quand j'étais à la démolition, elle avait fait une fête à la démolition de ce village, les gens pleuraient. Tu sais, il se passe quelque chose quand tu vois les gens pleurer, dire « Merde, c'est là que je suis né, c'est là mon village dans Paris. » Et tu vois les larmes qui coulent, c'est pas les larmes de rire. Hein. C'est terrible.
Ciel de Paris.
Sorti de Paris, on reprend la Nationale 7. Destination, la mer, la grande bleue, l'étendue marine et moqueuse. Et pourtant, la Nationale 7, elle se moque de tout. La Méditerranée aussi, remarquez, elle se moque bien des amants de la Nationale 7. Elle se moque aussi de ces snobs qui apparaissent à Fréjus et disparaissent aussitôt, croyant impudent l'avoir capturé dans leur filet.
Plusieurs fois, on a joué des jeux, là, par exemple, ça s'appelle la première vision de la mer. C'est-à-dire que la Nationale 7 touche la mer à un moment. Bon, on a passé, donc, on part de Paris, on passe Lyon, plus ou moins bien, on descend la vallée du Rhône, on a l'appel du Sud, hein. Ah, ça sent bon, hein, y a des odeurs, ça sent le thym, ça sent les odeurs de garrigue, quand elle n'est pas brûlée, les mecs, hein. Voilà. Enfin, bon, la Sainte-Baume, et puis, je sais pas, la Sainte-Victoire, quand même, merde, Cézanne, quoi, c'est quelque chose, quoi, qui est cramé. Bon, et donc, on arrive, la Nationale 7 arrive à la mer, et la première vision de la mer, c'est à Fréjus. voulais faire. J'ai dit, bah, écoute, je ferme les yeux, dis à ma femme, je conduisais, je ferme les yeux, on va pas tricher, et je me gare dès que je peux. Je te jure, je me suis garé en fermant les yeux. Et j'ai fait la photo de cette première vision de la mer, telle que la National 7 touche la mer. Et voilà, on a un mur ligne Maginot, avec un palmier cassé, les prolos qui viennent rêver devant la ligne Maginot, bord de mer. Quelle tristesse, c'est sordide. La Côte d'Azur, quel égout. Village à l'abandon, enfin, à proche ou pas très, très loin, je l'ai bien entendu, il y a un dépeuplement total de ce genre de... Puis la National 7, à partir du moment où elle est à l'abandon, alors moi je suis content. L'abandon, plein de poussière et tout ça, alors... Bon, et puis on descend, et puis après on passe dans un bled qui s'appelle la Palue. Alors eux, ils subissent deux syndromes. Ils ont le syndrome de la déviation de la 7 et l'autoroute. C'est-à-dire que plus personne passe dans le village. Alors nous, quand on est arrivé, on est repassé plusieurs fois. C'est un village qui fabriquait des balais brosses. Hein, les balais, bon, maintenant ça vient de Hong Kong, mais à l'époque, on les fabriquait à la main. Et il n'y avait plus qu'une usine, on les passait, je crois qu'elle est fermée, la peau. Des gens charmants, et c'était un sésame. On venait les voir, se rendre compte qu'avant c'était la fête, et ils nous ont sorti toutes leurs photos. On voit les gamins fourguer les balais aux gens dans l'embouteillage, ça discute, ça parle du midi, ça parle du nord, il y a un échange qui se fait, il y a un troc. Un troc social, un troc d'idées, un troc de couleurs. Bon, et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a plus rien. Il y a un truc marrant aussi, c'est que les gens se plaignaient du trop plein d'embouteillages. C'est-à-dire qu'il y a énormément de villages où deux camions ne pouvaient pas se croiser. Je vois à Mornas, qui est juste avant Orange, c'est un village merveilleux. Il y a une colline avec une petite église en haut, c'est super beau, tu montes, tu as toute la vue sur la vallée du Rhône. Et les gens se plaignaient que deux camions ne pouvaient pas se croiser. C'est la catastrophe. Madame Michu, on est compte, deux camions ne pouvaient pas se croiser. Mais maintenant que deux camions, il n'y a plus de camions, ben, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, je veux dire, il se passe plus rien. Hein, les gens prennent l'autoroute et le village il est mort, il est en train de crever. Alors je parle de Mornas, je peux parler de Flassan, il y avait une histoire extraordinaire qu'un routier m'a raconté. Il s'arrêtait à Flassan, c'était un relais routier, comme tous les relais routiers, là, rouge et bleu. Et puis nous on s'arrête, et puis on m'avait raconté un truc fabuleux, on m'avait dit, tu verras, le patron est toujours frais. Ah bon, ah bon. Effectivement, le patron, je m'en... toujours frais, le gars habillé. On passe à l'aïe, on se trouve, on passe au retour, on refait trois fois, quatre fois le voyage. Toujours le même gars, mais impeccable, quel que soit le lors du jour, la nuit, du matin, impeccable. Et en fait, dis donc, l'astuce, c'était deux frères jumeaux qui se relayaient, habillés pareil. Bon, c'est une petite anecdote de la 7. Une anecdote merveilleuse, c'est à Nov, c'est un des bleds. Il y a un maire charmant, un maire communiste qui est adorable à Nov. Et j'étais accueilli chez lui, il faut que je le dise, quand même. Il y a eu des très grandes rencontres. Il y a eu de très grandes rencontres. Et je m'arrête à Nov, je me suis arrêté à Nov plusieurs étés pour refaire les petits bouts sur la 7. Et à Nov, j'arrive au café, et la première phrase que je dis à la cafetière, je dis alors, quoi de neuf à Nov? Et elle me répond, oh, à part les morts, vous savez, il n'y a rien de nouveau.
Commence à y mourir, et puis c'est la route où Camus trouve la mort aussi. La National 7 laisse derrière elle les corps des vacanciers malchanceux. L'asphalte oublie tout, nous aussi. Rouler, c'est jouer avec le feu. C'est la tentation du diable. C'est un rêve de gosse.
La seule image, je veux dire, qui est l'exception de ces cinquantaine de photographies. Bon, j'avais envie, je rêvais, puis gamin, de monter une voiture de course de l'époque. C'est une voiture de course, bon, qui n'est pas ma jeunesse, c'est une voiture de course avant-guerre 1931, mais c'est quand même une voiture de Grand Prix 1931. Et je connaissais un collectionneur d'Avignon, un Carpentras exactement, de la région, qui avait cette voiture. Autant vous dire que ça vaut une certaine bagatelle, hein, quelques paquets de cacahuètes. Et il m'a emmené sur la National 7, on a roulé à 200 à l'heure avec. Et je suis descendu là, couvert d'huile, de ricin, tu sais, imprégné de cette odeur de course. Ivre de bonheur, les lunettes à l'envers, l'appareil défait, autant dire, ma femme a vu descendre, je me suis allongé pendant deux jours, ma feuille de jour pour en remettre. Bon, c'était un rêve de gosse, comme tous les gosses rêvent de monter à la bagnole de Prost maintenant, quoi, hein. Mais là, c'est pas les hommes sandwich, le mec qu'on disait ça, hein. Bon, c'est autre chose, c'est autre chose. Et crois-moi que quand tu roules dedans, il y a un contact, comme on dit en italien, on dit si voilà, tu es au contact de la route, mais tu glisses, quoi. Tu glisses dessus, hein, tu vois. Là, sur la 7, il s'est passé quelque chose, un relationnel entre le macadam, les pneus de la bagnole et toi. Alors imagine quand t'es photographe, tu t'accroches, t'es posé, t'as la fesse à moitié posée, parce qu'il n'y a pas de place là-dedans, il y a une place et demie, quoi. Avec mon gros cul, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Et à 200 à l'heure, et encore, tu peux lui monter le compresseur. Imagine ce que ça aurait donné un peu plus, qu'on prend les 250. Extraordinaire. Et là, on est sur la 7 avant Aix, on a fait 100 bornes avec. Au pas de plaque d'immatriculation pour l'échappement libre, enfin la complète. Hein. De Robert Doisneau, qui sont la préface, c'est deux. J'aurais lui demandé une préface, puis Doisneau, qu'il n'avait pas le temps, il n'a pas envie d'écrire en ce moment, il vient de sortir ses mémoires. Il y a une photo qui est à Fontainebleau avec une 203, des gens dans l'herbe, déjà, ils sont déjà fatigués avec le canoë sur le toit de la 203, et ensuite une photo à Brignoles. Donc on rejoint mon Brignoles à moi qui est vide. On rejoint les embouteillages, on voit les quatre chevaux, et t'as les gonzes du coin, c'était l'attraction, on voit que c'est l'attraction, et les gonzes du coin qui viennent voir les bagnoles, l'embouteillage de l'époque. Voilà. Et je pense que ce qui est important, bon, c'est d'abord, un, parce qu'il avait déjà vécu comme moi, parce que bizarrement à la fois Robert Doisneau, à la fois Willy Ronis et quelques autres me demandent pourquoi je refais les mêmes, pas les mêmes parcours mais avec la distance du temps, pourquoi je refais les mêmes galères qu'eux. Souvent Willy Ronis m'a dit les mêmes galères, j'emploie son mot, et on se pose des questions pourquoi. Oui, parce qu'on est la même famille de... Je suis fier d'être dans leur famille, d'avoir été, j'ai mis longtemps à être admis. Je suis très fier, c'était long. C'était un rêve de gosse aussi. Je veux dire, bon, depuis longtemps, j'étais amoureux de ce qu'il faisait, la façon des les rencontres. Moi, j'ai pas été copain avec Prévert, ça aurait été mon rêve de rencontrer Prévert. Quand Willy Ronis rencontre Prévert, c'est pendant la guerre, à Tourette-sur-Loup, exactement, où Ronis s'est réfugié. Et je pense que ça doit être une rencontre magique. J'ai vu les photos de cette époque. Bon, ben, la littérature de Prévert a bercé toute mon enfance. C'était important, quoi. C'était important. Il fallait que je lise Prévert. J'étais orphelinat, ben, je lisais Prévert en cachette, quoi. Parce que c'était pas un programme, hein. Il n'y avait pas d'école Jacques Prévert encore, hein. Ou Paul Éluard. Bah, la préface de Willy Ronis, il y a un bouchon, comme on dit à Lyon, parce que les restaurants s'appellent des bouchons, et Pierre Racheline parle de la Moleskine, et je laisse au lecteur le soin de lire le texte de Pierre Racheline, effectivement, bon, ça s'applique très bien, et puis une photo, alors, merveilleusement magique, de la lumière lyonnaise vue à travers le carreau de la deux chevaux de Willy Ronis qui descendait vers le sud, parce que Willy Ronis avait une maison à Gordes. Il a acheté une maison en 1947 à Gordes, où il a fait la photo de sa femme très connue, le nu provençal. Une grande photo de Willy Ronis, une des grandes, il y en a d'autres. Et il avait cette maison à Gordes, et donc là c'est en descendant. Il s'arrête sur les quais de Saône, il faisait la photo des mômes qui jouent. Et on voit qu'elle, par rapport à maintenant, je dis, on verra moins maintenant sur les quais de Saône, les mômes qui jouent, les mômes sont moins dehors maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a la télé, voilà. Et les mômes jouent plus comme ça, il y a je sais pas combien de ribambelles de mômes qui jouent dehors, on joue au foot au bord de la Saône à Lyon.
Nous arrivons maintenant au bout de notre voyage. La mer, la ville, le théâtre de verdure et de béton mêlé, tout cela a défilé devant nos yeux. Et au bout du compte, que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de cette National 7 qu'a photographié Robert Doisneau dans sa jeunesse? Quelques traces de poésie, certainement de cette poésie qui survit aux choses et puis aux gens. Il restera toujours la nostalgie.
Les hommes, quoi. Où sont-ils? Mais où sont-ils? Ben, il y a la télé, je sais pas. Oui, non, on peut se poser des questions. Ma nostalgie, bon, j'ai envie de la garder pour moi et la partager avec des lecteurs qui, presque, c'est plein de pudeur, la nostalgie. Hein.
Nous allons lâcher ici la main de Christian Louis et on va le laisser sur sa National 7 rouler encore sur l'asphalte jusqu'au soleil à bord de sa 4 chevaux grise et on va le laisser avec sa nostalgie. On va s'en aller sur la pointe des pieds pour ne pas déranger ses rêves de gamin et puis nous, on va se souhaiter un très très bon week-end.